Radio Kapi.
Morts, 14 véhicules incendiés et plus de 80 personnes portées disparues lors d'une attaque hier des rebelles de l'ADF à Irumu en Ituri. Ce bilan est encore provisoire. La présidence de la République sous audit de l'inspection générale des finances depuis mars dernier. Les effectifs et les contrats signés par cette institution sont parmi les matières contrôlées par l'IGF. Et à ces sujets, vous entendrez justement l'inspecteur adjoint de l'IGF, Victor Batubenga, et notre invité. Bonjour à tous. D'abord cette nouvelle, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé en Italie hier mercredi en fin d'après-midi, selon la presse présidentielle, en prélude à sa participation à la 47e édition du forum Ambrosetti, organisé à Milan sur l'économie mondiale. Le chef de l'État congolais sera reçu ce jeudi au palais du Quirinal, siège de la présidence de la République italienne. Venons-en à présent à cette attaque d'un groupe de rebelles des ADF ayant fait 10 morts hier mercredi à Bandibessé, à Irumu, dans la province de l'Ituri. 14 véhicules ont également été incendiés et plus de 80 personnes sont portées disparues. Ce bilan est encore provisoire. Des sources sécuritaires dans la région renseignent qu'il s'agit d'un convoi de véhicules escortés par des militaires FARDC et de la MONUSCO en partance pour Beni, qui est tombé dans les filets de ce groupe terroriste. Le président des transporteurs de l'Ituri s'est dit choqué de cette nouvelle. Georges Bosman appelle les autorités militaires à redoubler d'efforts pour sécuriser les passagers et qui fréquentent ces tronçons avec leurs engins. Le récit de fait avec Ezekiel Mouzalier.
C'est vers 11h locale que ces véhicules sont tombés dans cette embuscade. Il s'agissait d'un convoi qu'escortaient les militaires des FARDC et les casquets bleus de la MONUSCO. Ces engins venaient de quitter le centre des négoces des commandas pour se diriger vers Luna sur la route nationale numéro 4. D'après la société civile locale, ces rebelles ont surgi sur la route pour bloquer les passages à ces véhicules. Ils étaient munis des fusils de guerre et des armes blanches, indiquent nos sources. Après un échange de tirs entre les militaires et ces malfrats, certains passagers ont réussi à s'échapper. Mais selon un bilan encore provisoire donné par la société civile locale, 14 véhicules ont été complètement incendiés. Plus de 80 personnes seraient prises en otage par ces rebelles, souligne une source officielle. Pour l'heure, aucune idée sur le sort de ces passagers, s'inquiète Dieudonné Malangaï, membre de cette structure citoyenne. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, dit ne pas comprendre des attaques à répétition de ces groupes terroristes sur ces taxis routiers où des patrouilles militaires sont pourtant organisées quotidiennement. Le porte-parole de l'armée en Ituri n'a pas encore réagi concernant cette nouvelle attaque. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, sur la route Beni-Kassindi, la MONUSCO continue d'escorter les véhicules civils pour éviter qu'ils ne fassent l'objet des attaques d'hommes armés, ce qui réjouit les usagers de cette importante voie de communication empruntée quotidiennement par de nombreuses personnes, notamment des commerçants qui s'approvisionnent à la frontière ougandaise. C'est le cas de Christian Baeni qui fait régulièrement la navette entre Beni et Kassindi. Hier matin, son taxi a été escorté par des casques bleus de la MONUSCO. Écoutez son témoignage au micro de Joël Wofengo Kalonji.
Je fais mes navettes, des fois les courses de service, des fois mes voyages pour assister aux obsèques et tant d'autres. Vous savez, la sécurité c'est d'abord psychologique. Quand on est convoyé, en tout cas on est stable parce que ça joue à la psychologie de quelqu'un. Mais depuis que la MONUSCO commence son convoi, bon, on n'a pas connu un cas d'accident. C'est bien, on est sécurisé. Il n'y a pas d'attaque jusque-là. Ça nous réjouit, oui, mais nous souhaitons que la paix revienne. Parce que les convois font preuve d'une guerre. Donc on ne fait que protéger les usagers de la route temporairement. Alors la paix durable serait mieux que les convois. C'est depuis longtemps que les casques bleus sont ici. Ils sont là pour le maintien des lapins. Eh bien, quand ils sont entre nous, comme sécurité du convoi, nous en sommes conscients et ça nous sécurise psychologiquement.
Toute circulation des mototaxis au-delà des 19h est interdite à partir du 4 septembre prochain dans la ville de Beni. Cette mesure du maire fait suite au regain d'insécurité avec une série de meurtres observés depuis lundi dans la ville, dans les heures vespérales. La décision de l'autorité urbaine est contenue dans un communiqué de presse rendu public mardi. Gabriel Omenia nous fait le point.
Le maire de Goma, Kabeya Makosa François, vient d'interdire la circulation des taxis motos au-delà des 19h sur toute l'étendue de la ville de Goma. La signature de ces communiqués survient après que les taximens motos ont été victimes de tueries par des hommes non entièrement identifiés et les vols à répétition de leurs engins roulants devenus monnaie courante dans la ville. Il est strictement interdit à tout taximen motard et autres usagers privés de circuler au-delà de 16h, indique le maire dans ses communiqués. Dans ces mêmes communiqués, les maires exhortent les motards ainsi que d'autres propriétaires de prendre des dispositions nécessaires pour regagner leur domicile à partir de 18h30. À en croire les mêmes documents, les forces armées se saisiront de tout récalcitrant et à tout autre individu qui ira à l'encontre de cette décision de l'autorité urbaine. Signalons que cette mesure intervient quelques heures après une fusillade impliquant deux motards, des tirs qui ont fait un mort et sept blessés lundi dernier dans la commune de Karisimbi. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Signalons que le Sénat a adopté hier mercredi en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Au cours de la plénière tenue par visioconférence pour des raisons de la pandémie de COVID-19, les sénateurs ont autorisé unanimement la 7e fois consécutive l'état de siège pour une durée de 15 jours à dater de demain vendredi 3 septembre. Nous aurions souhaité que tous les dossiers traités par l'inspection générale des finances et transmis à la justice soient traités avec célérité. La déclaration est de Victor Batubenga Pandamadi, inspecteur adjoint de l'IGF. Il ajoute cependant que l'IGF ne contrôle pas la justice. Il a dit hier mercredi à J.R. Lungembo au cours du magazine Parole aux auditeurs de Radio Okapi. On l'écoute.
D'abord, le premier dossier qui a été porté sur la place publique par l'inspection générale des finances, c'était le dossier Bukangalonzo et c'était le dossier relatif à la gestion des fonds Covid. C'était le premier dossier. Mais lorsque vous regardez bien, le dossier Bukangalonzo, la justice en est saisie il y a bien longtemps, tandis que le dossier relatif à la gestion des fonds Covid, il n'y a pas longtemps en fait que la justice l'a actionné. Donc nous, chaque fois que nous terminons une mission, lorsqu'il y a des faits infractionnels, nous les transmettons au cours des tribunaux et parquets, selon en fait la situation de chacun, soit la cour d'appel, soit la cour de cassation, soit la cour constitutionnelle. Évidemment, notre désir à nous, c'est que tous les dossiers que nous transmettons puissent être traités par la justice avec célérité. Malheureusement, ce levier-là, nous ne le contrôlons pas.
L'inspecteur adjoint de l'IGF confirme également que depuis le mois de mars, son institution mène une mission de contrôle à la présidence de la République. Les effectifs et les contrats signés par la présidence sont parmi les matières auditées par l'IGF. Vous l'écouterez à ces sujets à la fin de cette édition puisqu'il est notre invité. Plusieurs dossiers judiciaires en souffrance et la procédure des détentions de bon nombre des détenus devenus irrégulières faute de magistrats dans la province du Maïndombe en général et au territoire de Koutou en particulier. Ceci a pour conséquence de bloquer la solution aux problèmes de la population, a déclaré le président du tribunal de paix de Koutou. Didier Kalunga appelle donc le Conseil supérieur de la magistrature à affecter les magistrats et les juges dans cette contrée pour le bon fonctionnement de la justice. On l'écoute au micro de Irène Boma.
Le tribunal de paix de Koutou, le personnel judiciaire du côté siège qui pose problème. Et depuis lors, je suis seul. En tant que président, il n'y a pas de juge. Récemment, on nous a affecté des juges, malheureusement, et des juges qui ne veulent pas venir. Parfois, les conséquences, le tribunal ne siège pas. Or, pour siéger en matière pénale, il faut avoir trois juges de ceux qui posent problème. C'est presque la situation générale de toute la province de Maïndombe. Sur les 8 territoires qui comptent la province, il n'y a que le tribunal de paix de Koutou et le tribunal de paix du Nomo qui n'ont qu'un seul juge qui est leur président. Et tous les autres n'ont ni juge ni président. Donc la province de Maïndombe a une carence de magistrats et que si le Conseil supérieur de la magistrature pouvait nous aider à affecter les magistrats, ce sera une bonne chose. La carence des magistrats, la conséquence, c'est que les dossiers judiciaires restent en souffrance. Les solutions aux problèmes de la population ne sont pas trouvées. Quelqu'un qui commet une infraction qui pouvait être punissable de 6 mois, mais il passe plus d'une année en prison parce que les juges ne sont pas là pour les juges.
Pollution des rivières Chikapa et Kasai. Le rapport final d'évaluation du gouvernement central fait état de plus de 4000 victimes de la pollution des eaux recensées dans 13 zones de santé sur les 18 que compte la province du Kasai. Plus de 3 semaines après qu'on a constaté cette pollution, la situation ne s'est toujours pas améliorée malgré le fait que l'eau a retrouvé sa couleur normale. Cette affirmation est du directeur chef de service des ressources en eau au ministère de l'Environnement et Développement Durable qui intervenait dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Lui Lungu Maluchi conseille la prudence et annonce que le gouvernement travaille sur le terrain pour assister les populations en détresse. On l'écoute.
Le gouvernement est en train de s'atteler. Les experts de haut niveau sont sur le terrain en train de faire le travail de fouille. Évidemment, la pollution est arrivée brusquement. Elle ne va pas disparaître parce que l'eau est redevenue claire. Il y a toujours des résidus qui vont rester, qui peuvent poser encore des problèmes. Sur les images que vous avez vues ou ce qu'on a vu sur le terrain, il y a plus de poissons à écailles qui sont morts, qui ont été retrouvés à la surface. Mais il y a d'autres poissons qui habitent plus au fond. C'est ce danger-là qu'il faut craindre parce que ces poissons peuvent accumuler des toxines et qui pourront contaminer toute la chaîne alimentaire. Donc à ce moment-ci, dire que la situation est meilleure, je ne pense pas. Nous devons rester sur nos gardes, continuer à surveiller la situation jusqu'à ce que les résultats qui vont sortir du travail des experts nous montrent que l'eau est redevenue normale et les risques dans les écosystèmes se trouvent à telle seuil. Et à ce moment-là, on peut donner des conseils corrects à la population. Le gouvernement est en train de travailler sur terrain pour résoudre les problèmes.
Pour sa part, Julie Ochano, coordinatrice de l'ONG Binadamo en Action, spécialisée dans l'humanitaire et le développement, basée à Chicapa dans la province du Kasaï, déplore le fait que les populations en détresse continuent d'attendre l'aide du gouvernement qui n'arrive toujours pas. Elle affirme que ni les familles des personnes qui ont trouvé la mort à la suite de cette pollution, ni les personnes atteintes de graves infections ne sont assistées jusque-là. On écoute Julie Ochano.
La première délégation de Madame Eve Bazaïbre étant ici à Chicapa la semaine passée, c'était une mission politique et scientifique. Et jusqu'alors, nous attendons les retombées de rapport de cette mission scientifique parce que, en amont, les échantillons étaient déjà envoyés à Kinshasa. Et jusqu'à présent, nous n'avons aucun élément, aucun rapport écrit et partagé établissant la qualité des substances toxiques qui ont été injectées dans la rivière Chicapa. Donc, à ce jour, une mission humanitaire serait attendue. La grande délégation du gouvernement national est ici à Chicapa depuis hier. Nous observons, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais je n'ai pas encore vu une aide humanitaire dispatchée à travers la population vulnérable du fait de la pollution des rivières Kasaï et Chicapa.
Ce dossier est signé Guy Maté. Un mot sur le sport dans ce journal. Les Léopards Football de la RDC jouent ce jeudi à Lubumbashi contre les Taifa Stars de la Tanzanie au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Cette rencontre entre dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les 3 joueurs de Mazembe sélectionnés pour la circonstance ont aussi rejoint la tanière des Léopards et se sont entraînés ensemble mercredi dans l'après-midi. Plus de détails avec Jean Gandou.
Arrivée à Lubumbashi ce mardi en début de soirée, l'équipe tanzanienne était la première à se présenter en conférence de presse d'avant-match. Tout en déplorant l'absence de certains joueurs pour cause de la pandémie à coronavirus, le coach Kim Poulton s'est dit déterminé à affronter la RDC, même si cette dernière est bien positionnée au classement FIFA par rapport à son équipe. Et le fait de commencer à l'extérieur n'est pas du tout un handicap pour sa sélection car elle recevra aussi chez elle les Congolais en manche retour. Et dans les rangs des visiteurs, manque à l'appel jusque-là l'international tanzanien Bwana Ali Samanta, resté en Europe pour régler le problème de son transfert. Il pourra très prochainement rejoindre ses coéquipiers, apprend-on de la délégation tanzanienne. Du côté congolais, c'est au petit jour de ce mercredi que les Léopards ont foulé le sol louchois, ce qui fait que la séance d'entraînement prévue pour 13h30 n'a finalement commencé qu'au-delà de 16h30. Devant la presse, le sélectionneur national Hector Cooper a une fois de plus afficher sa détermination à mieux faire. Il a indiqué que son équipe est à Lubumbashi pour jouer la gagne et maximiser ainsi ses chances. Par rapport aux absents, le sélectionneur national renouvelle sa confiance aux joueurs qu'il a sous la main. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Vous pourrez suivre cette rencontre sur nos antennes à partir de 14h de Kinshasa.
Actualité internationale.
Au Nigeria, plus de 70 lycéens enlevés par des hommes armés dans le nord-ouest du pays. Le porte-parole de la police de l'État de Zamfara a annoncé que 73 élèves ont été enlevés hier mercredi après l'irruption d'hommes armés dans leur lycée situé dans les environs de Maradon. Plus de 6 millions d'élèves font leur entrée aujourd'hui en France dans les écoles primaires. Une nouvelle année d'apprentissage placée sous le signe du Covid-19 et des protocoles sanitaires. Des changements brutaux pour les parents et les enfants qui restent inquiets. Nombreux sont aussi les parents à craindre une dégradation des conditions d'enseignement.
L'invité.
Victor Batubenga Pandamadi, inspecteur adjoint à l'IGF, est notre invité ce matin. Il affirme que le bilan du travail de l'inspection générale des finances est satisfaisant. Une année après la mise en place de la nouvelle équipe à la tête de ses services de la présidence, il y a notamment un accroissement des recettes publiques et beaucoup d'avancées en matière de lutte contre la corruption. À la question de savoir si l'IGF peut aussi auditer la présidence de la République, l'inspecteur adjoint affirme que cette première institution de la République est depuis mars sous audit. Victor Batubenga Pandamadi s'entretient avec Gérard Lungembo.
Monsieur Batubenga, bonjour.
Bonjour.
Une année après la réactivation de ces services de contrôle des finances publiques par le chef de l'État, aviez-vous le sentiment d'avoir accompli jusque-là vos responsabilités à la hauteur des attentes du chef de l'État lui-même et de la population?
Bon, permettez-moi que je puisse dire réactivation, je pense que c'est trop fort. L'inspection générale des finances a toujours existé. Rappelez-vous l'histoire des 15 millions qui a éclaté en 2019. Mais il faut avouer que avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'exercice des attributions de l'inspection générale des finances ont pris une toute autre ampleur. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre qu'en fait que nous avons œuvré à la perfection. Chaque jour qui passe, nous devons nous perfectionner. Mais en tout cas, une année après, nous pouvons dire quand même qu'en tout cas, il y a des avancées significatives qui ont été réalisées. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, bon, on parle de l'IGF un peu partout.
En clair, quel est votre plan d'action? Êtes-vous sur les grandes institutions, sur la gestion des provinces, les entreprises? Parce que finalement, on a l'impression que vous êtes vraiment sur plusieurs fronts à la fois. Vous êtes ici et là au même moment. Alors concrètement, comment s'établit votre feuille de route? Par où commencez-vous et par où allez-vous terminer?
D'abord, de par ses attributions, les textes disent que l'inspection générale des finances a une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Donc partout où il y a des finances et des biens publics, nous intervenons. Dans l'organisation de l'IGF, nous avons 10 brigades qui couvrent pratiquement l'ensemble des opérations financières de l'État. Et comment est-ce que l'inspection générale des finances intervient? Comme tout service, au début de l'année, il est tout à fait normal que nous puissions élaborer un programme d'action. Comme nous sommes sous la tutelle du président de la République, nous soumettons ce programme d'action à l'approbation du président de la République.
Combien de détourneurs aviez-vous déjà traqué et quelle a été la récupération en termes d'argent au niveau de l'État?
Bon, d'abord, il faut dire que l'action de l'inspection générale des finances ne se mesure pas que à travers combien d'argent on a recouvert. Pour la petite histoire, parce que là, cette année, on a assisté à un accroissement significatif des recettes, mais je crois que parmi les facteurs explicatifs de cet accroissement des recettes, il y a l'action de l'inspection générale des finances en 2020. L'ordre a été mis là-dedans. Aujourd'hui, dans la loi de finances, il est interdit les compensations. Les exonérations sont vraiment réglementées. L'inspection générale des finances fait le contrôle et se fait une intime conviction à l'issue du contrôle qu'il fait. S'il s'avère qu'il y a des faits infractionnels qui ressortent du contrôle qui a été fait, c'est le dossier est transmis à la justice. Donc, qu'une personne puisse être condamnée ou pas, ce n'est pas l'inspection générale des finances qui le fait.
Comment expliquer les faits avérés dénoncés par l'IGF et la justice ne les établit pas?
Dire que la justice ne les établit pas, non. Je crois que vous êtes au courant du dossier des 31 milliards que nous avons bloqués, du TENAFEP.
Est-ce que l'IGF peut aussi ouvrir la porte de la présidence de la République?
Je m'attendais à cette question-là. Hein. Permettez quand même que je puisse préciser. Parce qu'en fait, en parlant de la présidence de la République, c'est le président de la République que vous visez. L'IGF contrôle les opérations financières de l'État. Le chef de l'État ne pose aucune opération financière de l'État pour qu'on puisse le contrôler. Mais maintenant, les services de la présidence, il y a un gestionnaire des crédits à la présidence de la République. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Est-ce que l'IGF peut contrôler la présidence de la République? Oui, parce que depuis le mois de mars, il y a une mission de l'inspection générale des finances à la présidence de la République. On a parlé des contrats, on a parlé des effectifs pléthoriques. La mission est là depuis le mois de mars. En tout cas, le bilan est positif en une année. Je vous raconte une boutade. Un DGA qui se plaint d'avoir seulement $50 de crédit de communication et puis on lui demande, mais pourquoi on ne vous en donne pas plus? Et il dit, mais si on m'en donne plus, vous, IGF, vous allez tomber sur moi.
Victor Batubenga Pandamadi, merci de nous avoir accordé cette interview.
Le plaisir a été pour moi de répondre à votre invitation.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.